France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Vous connaissez son nom, vous connaissez sa gueule. Il est dans le rang, il est hors des clous, il est chef de cuisine, il est chef d'entreprise, il dirige des restaurants étoilés et une école d'insertion, il est ambitieux et partageur de sa réussite, il est cuisinier et judoka, il vient de Ménilmontant, il adore le Japon. Il y a tellement de Thierry Marx dans Thierry Marx qu'il a mis tout ça par ordre alphabétique pour en faire un dictionnaire de sa vie, ça nous aide un peu. Il sait d'où il vient, mais il a vu beaucoup d'ailleurs, il peut parfois agacer sûrement, il a été revanchard, peut-être plus sage et serein aujourd'hui, peut-être en vieillissant, il nous le dira. Il a goûté à la télé, à des heures de grande écoute. Il voudrait être un rôle modèle, inspirer à d'autres ce qui lui a été inspiré par d'autres. Si c'est votre cas, eh bien allez-y. Appelez-nous, Thierry Marx est avec nous jusqu'à 20h. Emmenez-le où vous voudrez, dans les clous ou hors des clous. Son expérience, sa vision de la France, du monde, aujourd'hui même sa recette du bon pain, éventuellement, parce que c'est celle que j'ai trouvée dans l'ABCDR. Soyez les bienvenus dans le téléphone sonne.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Marx, avant qu'on retrouve le premier auditeur, qui est un tout petit auditeur mais habitué du téléphone sonne. Bonsoir à toi, Barnabé.
Bonsoir.
Et comment ça va?
Très bien.
Eh ben super, on écoute ta question, Barnabé.
Alors, moi j'aimerais savoir, donc, en fait je suis en quatrième, j'ai 12 ans, et moi ça se passe très bien au collège. Et je voulais savoir quel était le meilleur parcours à prendre pour devenir cuisinier comme Thierry Marx. Voilà.
Eh ben merci pour ta question, Barnabé. Qu'est-ce qu'on lui conseille, Thierry Marx?
Bonsoir, Barnabé. D'abord, c'est bien que ça se passe bien au collège, c'est parfait. Et je pense qu'il y a deux options. Il y a l'alternance, l'apprentissage chez un employeur, alternance, centre de formation et l'employeur, ou alors l'école hôtelière, ce qui me paraît être un parcours aussi intéressant, et toutes les voies sont permis, donc il faut choisir toutes les options. Il y a des jeunes gens qui sont plus à l'aise dans le faire pour apprendre, donc ça c'est l'école plutôt traditionnelle, l'école hôtelière. Il y a d'autres qui sont plus à l'aise dans l'apprendre pour faire, et ça c'est la formation en alternance. Les deux, pour moi, les deux amènent à un très bon résultat. Ce qui compte, c'est le projet, et la finalité, c'est de s'épanouir.
On dit souvent dans les écoles spécialisées, qu'on parle de cuisine ou d'autres choses d'ailleurs, que au fond ça forme les mêmes, ça met tout le monde dans le même moule, sans mauvais jeu de mots, pour la cuisine. Est-ce que c'est le cas aussi ou pas?
Exactement, c'est-à-dire qu'il y a des options qui sont effectivement, comme je l'ai évoqué, le faire pour apprendre, c'est l'école, et puis il y a l'apprendre pour faire. Moi, ce que j'ai connu au travers des compagnons des devoirs, au travers de la formation plus pratico-pratique, mais en tout cas elle amène au même résultat, à l'épanouissement par un métier qu'on a choisi.
Chez vous, à Cuisine Mode d'Emploi, est-ce qu'on trouve des Barnabé au fond, ou est-ce qu'on est plutôt dans un parcours qui a été peut-être plus heurté et qui finit chez vous? Est-ce qu'on est plutôt chez des gens peut-être un peu plus âgés d'ailleurs?
À Cuisine Mode d'Emploi, on est chez des personnes un peu plus âgées qui sont bien souvent éloignées de l'emploi, par moments très éloigné de l'emploi, en précarité, et puis des personnes avec des accidents de parcours. Donc la mission, elle est simple pour nous et simple pour le candidat. Le projet, on ne recule pas, on avance pendant 11 semaines et on puisse l'intégration se fait très très bien.
Il y a cette question de Franck sur franceinter.fr qui nous appelle de l'Isère et qui dit: mon fils a 19 ans, il rêve de cuisine, il a souvent été mal orienté, mal conseillé, il songe à abandonner cette voie. Comment fait-on pour entrer dans votre école, dit-il? Comment lui assurer surtout que ce serait mieux qu'ailleurs?
C'est-à-dire que pour entrer dans notre école, il faut d'abord être demandeur d'emploi. Ça, c'est un prérequis. Et ensuite, bien définir son projet. La formation chez nous, elle est pratique. Elle est dans le faire pour apprendre. Elle dure 11 semaines. Mais 11 semaines, ça peut être très long si on a choisi le mauvais projet. Donc, il faut bien se poser 5 ou 10 minutes avec ce jeune homme et lui dire: bon, écoute, c'est vraiment la cuisine que tu veux. Eh bien, on en parle. C'est quoi le projet? Si le projet est un diplôme, c'est pas un projet. Si le projet est un métier qui t'épanouit et qui te rend heureux, ça c'est un projet et là on peut t'aider. Et il y a une monnaie d'échange, la formation est gratuite, mais la monnaie d'échange, c'est rigueur, engagement, régularité. Rigueur, c'est, allez, on va le traduire à la japonaise, c'est le shitsuke, le projet. L'engagement, lâcher la main du passé quand le passé était un peu compliqué. Régularité, pas d'absence, pas de retard pendant 11 semaines. Et puis finalement, 95% de nos candidats sont en retour à l'emploi. Donc ça veut dire que s'il sait fait ce qu'il veut, si c'est vraiment son projet, c'est ce qui le rend heureux, eh bien, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir rentrer dans notre école.
C'est marrant quand vous dites qu'il faut qu'ils aient lâché le passé, en fait, qu'ils arrivent un peu vierges. Je dis ça parce qu'en vous lisant, j'ai bien compris que vous aviez eu du mal, vous, à lâcher ce passé-là. En fait, il vous a un peu collé au basque pendant un bout de temps, quand même. C'est une espèce d'obsession de s'extraire, en fait, qui a été la vôtre.
Lâcher le passé, ça ne veut pas dire lâcher son patrimoine, qui on est, son identité, tout ça. Au contraire, c'est une force. Mais quand le passé a été un peu compliqué, il faut accepter de lâcher la main autant que faire se peut pour avancer face à la vie, pas à contre-vent de la vie.
Mais vous disiez même partir ou mourir, en fait. C'était aussi vital que ça pour vous.
Ça a été ça à un moment donné où je me suis dit, il faut vraiment partir ces quartiers parce que c'est une problématique dans ce quartier. Le silo dans lequel j'étais était une problématique. Le judo m'a donné confiance en moi. C'est vrai que le sport m'a donné confiance et ça m'a permis de m'extraire de ce quartier.
On va y venir d'ailleurs au judo parce que ça prend une place extrêmement importante. Il paraît d'ailleurs, je vous ai lu, il paraît que vous imposez le salut le matin dans vos entreprises, un peu comme les judokas qui se saluent toujours sur le tatami avant de commencer.
Plutôt de façon occidentale, mais on se salue, on prend le temps de se saluer, de cérémonialiser un petit peu le bonjour du matin ou le départ le soir, parce que je pense que cette reconnexion est essentielle. Il ne faut pas que ce soit un salut cosmétique ou un salut sans intérêt. Il faut marquer de l'intérêt à l'autre et de le reconnecter à qui il est et nous à qui il est. Donc c'est intéressant.
C'est quoi les codes du judo du coup qu'on peut transposer dans l'entreprise, dans la cuisine?
Il y en a énormément. Il y a la loyauté peut-être qui est le plus important. L'amitié, qu'on pourrait traduire dans le même sens d'ailleurs. La loyauté, le sens de l'honneur, le travail, le goût de l'effort. Et puis le goût du partage, c'est ce qui me permet quand même de réaliser de jolies choses dans le monde de l'entreprise. Et puis de savoir qu'on pourra compter sur l'autre, ça c'est important.
Au fond, vous auriez pu être judoka, puisque le sport études, vous ne saviez pas ce que c'était, personne ne savait ce que c'était dans votre famille, donc on ne vous a pas orienté, mais c'est toujours marrant à noter ces parcours de vie-là. En fait, on a presque envie de dire heureusement qu'il n'est pas devenu judoka, au fond. En fait.
Oui, mais je pratique toujours le judo, et tous les matins, quasiment. Mais le judo m'apporte tellement de souplesse, mais aussi de réactivité et en même temps d'être capable d'affronter la chute et de me relever après la chute. Donc je garde toujours dans ma vie une grande part au judo.
Isabelle, bonsoir. Isabelle.
Oui, vous m'entendez?
Ah, je vous entends très bien. Très Allez-y, bien. Isabelle, tout le monde vous entend.
Oui, bonsoir, oui, merci de prendre mon appel. Voilà, on connaît le succès de l'école de la deuxième chance pour les jeunes. Donc j'aurais aimé savoir si Thierry Marx aurait pour projet de faire la même chose, mais pour les seniors, dans le cadre d'une reconversion, par exemple. Et j'ajouterais aussi, donc je suis originaire de Belleville, Ménilmontant, et j'étais aussi une inconditionnelle de la boulangerie Bernard Ganachou.
Ah, oui, ah mais voilà. C'est fou ça. Alors, figurez-vous que moi aussi j'habite à Ménilmontant, donc on va faire un club.
On va faire un club des gens de Ménilmuche. Non, exactement. Vous avez raison, les seniors, nos écoles accueillent tout public à partir de 18 ans et après, on ne se pose pas la question de l'âge. Je pense qu'à chaque âge, son projet et de ne laisser personne au bord de la route, c'est un de nos devoirs de citoyens de faire le meilleur voisin possible. Vous avez raison, il faut s'occuper des seniors. Et puis les seniors nous apportent beaucoup, c'est-à-dire que ils ont de la compétence, ils ont de l'énergie encore et ils peuvent la mettre dans la disponibilité d'une formation professionnelle. Donc il faut pas, au contraire, il faut aller vers les seniors et ne pas les laisser seuls parce que ça, c'est une autre problématique de notre société.
Mais en cuisine, après, est-ce qu'on prendrait un senior qui arriverait en disant « je viens à peine de me reconvertir ».
Vous savez, il y a eu 170 000 postes non pourvus cette année et il m'arrive de recruter des gens qui, il y a quelques années, n'auraient pas pu être sur la feuille de match, comme on dit. Et aujourd'hui, ils ont 40 ans et plus, 50 ans et plus. Et ils nous rejoignent dans le monde de la boulangerie, dans le monde de la cuisine. Ils remplissent bien la mission. Et au contraire, c'est un plus pour les équipes de rééquilibrer un peu les équipes. Pas avec trop de jeunes, mais avoir un équilibre assez partagé, une parité entre des gens plus âgés et des gens plus jeunes, ça fait toujours des équipes assez soudées et assez cohérentes.
Pourquoi vous avez du mal, selon vous, à recruter? Vous disiez 170 000 postes à pourvoir. Est-ce que c'est trop dur?
Je pense que c'est des horaires décalés, ce qui inquiète toujours. Et puis, il y a le fait de travailler quand les autres se reposent. C'est pas toujours simple. Des formations un peu longues. Et puis, reconnaissons-le, il faut pouvoir faire monter les gens en compétences très vite parce que le salaire de départ n'est pas un salaire extraordinaire, donc c'est très compliqué de se loger et de vivre avec un salaire de départ. Donc il faut faire monter les gens en compétences très très vite.
Mais vous avez le sentiment que les jeunes aujourd'hui sont plus regardants au fond sur ces choses-là, donc ça veut dire aussi sur la manière dont ils vont vivre, sur ce qui se passe à côté du travail, que votre génération l'était.
Bien sûr, je pense qu'ils ont, ils n'auront pas un rapport sacrificiel au travail, et tant mieux. Et tant mieux, ça veut dire qu'ils font des choix de vie, par moments des choix de formation qui nous paraissent un petit peu étonnantes, mais en même temps ils ont fait le choix de la vie, de vivre leur vie. Donc je trouve ça bien de pas se sentir assigné à vie au même poste. Donc aujourd'hui les jeunes gens, on a besoin pour les garder, de leur proposer aussi des valeurs qui correspondent à l'entreprise et des valeurs qu'ils partagent avec nous.
Ça veut dire que la cuisine doit aussi changer peut-être, ce qui se passe dans la cuisine, je veux dire, donc les horaires, la manière parce que c'est un peu compliqué, on ne peut pas changer l'heure de la boulange, ça me paraît difficile.
Non, les horaires ne changeront pas, je crois que c'est la transmission de la passion qui va s'améliorer, et puis de faire réussir les gens plus tôt, c'est-à-dire que, est-ce que quand j'ai fait 2 ou 3 ans d'école hôtelière, je veux rentrer dans une entreprise au statut de commis de cuisine, ou je veux tout de suite un poste avec plus d'affirmation, et moi je crois que c'est assez juste de les faire réussir un peu plus tôt.
Jean-François, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, allez-y Jean-François.
Merci de prendre mon appel. Oui, je voulais demander à Monsieur Thierry Marx comment il prenait en compte en fait les questions de réchauffement climatique et de qualité de produits à travers ses fournisseurs. Quelle était sa vision de l'agriculture en fait?
Merci beaucoup Jean-François pour votre question, Thierry Marx.
Merci Jean-François pour cette question, une question très intéressante. Bien sûr que le monde de l'alimentation, le monde de la cuisine est très impacté par cela. Nous, on a décidé que nos restaurants seraient HQE, haute qualité environnementale. Donc effectivement, on privilégie les circuits courts, bien sûr. On travaille contre les plastiques. Et puis, on essaie aussi de travailler très près de l'agriculture et de faire en sorte que des personnes qui sont simplement en transition, déjà, on puisse les aider aussi à aller plus loin dans le tout bio, et ça demandera un petit peu de temps. Il faut savoir qu'un business model dans l'agriculture, c'est pas 2 ans, c'est entre 5 et 10 ans, donc il faut aider cette transition écologique, et le réchauffement climatique, c'est un vrai sujet, et c'est une vraie problématique aujourd'hui. Vous savez qu'il y a un certain nombre de produits alimentaires qui sont déjà touchés. Je pense au ténia dans le poisson. On sait bien que c'est le réchauffement climatique qui amène ce type de pathologie chez les poissons. Donc il faut prendre ça en compte très sérieusement. Le réchauffement climatique, c'est pas une vue de l'esprit, c'est totalement réel. Donc les cuisiniers sont très impactés par l'environnement. Donc on fait attention à avoir une responsabilité sociale, mais aussi une responsabilité environnementale.
Quand vous regardez comment vous cuisiniez, il y a encore une dizaine d'années, on va dire, par rapport à aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment de faire quasiment un autre métier?
Je peux vous donner un exemple. Exemple, il y a encore 15 ans, il y avait 5 entrées, 5 poissons, 5 viandes, 5 desserts. Aujourd'hui, il y a 3 propositions en entrée, 3 propositions en poisson et peut-être 2 propositions en viande. Donc le circuit court, des produits extrêmement bien sourcés pour avoir une cuisine à impact social et à impact environnemental totalement responsable. Et ça, c'est ce que l'on voit arriver aujourd'hui, et encore plus chez les gens plus jeunes qui sont, eux, vraiment en prise directe avec la planète et qui ont vraiment envie de faire quelque chose pour l'environnement.
Quand vous entendez, on appelle ça l'agribashing aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce que les agriculteurs aujourd'hui reçoivent comme critiques, même des fois c'est très virulent, vous nous empoisonnez, les pesticides, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Votre vision, vous, par exemple, du pesticide, ce serait quoi?
Déjà, reprendre conscience des sols. Il faut des sols vivants pour faire des produits vivants et une cuisine vivante, je dirais. Donc, il faut faire prendre conscience des sols et de voir notre mode de consommation. Je pense que s'il y a quelque chose sur lequel on peut intervenir tout à chacun en tant que citoyen, c'est sur notre mode de consommation. Après, sur l'agribashing, j'ai toujours été contre. Il faut laisser le temps de la transition. Il faut aider plutôt que de juger. Aujourd'hui, l'importance dans ce domaine, c'est de trouver des solutions, pas de chercher des coupables. Donc, l'agriculteur qui a fait ce qu'il a pu jusqu'à maintenant pour vivre, voire pour certains survivre, il faut plutôt aider dans la transition et d'être capable de mesurer l'impact social d'un produit et son impact environnemental. Après, on pourra parler de bio. Mais évidemment, le virage du bio a été pris par l'industrie agroalimentaire et la grande distribution il y a déjà 15 ans, sans aider vraiment l'agriculteur à cette transition. Donc il faut aider à cette transition.
Et alors en même temps, Blanche Dugers sur franceinter.fr nous dit « J'ai lu dans la presse que vous en aviez marre du bio », elle y met des guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'au contraire, vous ne devriez pas promouvoir une agriculture responsable. Mais à quel moment vous en avez eu marre du bio?
Non, mais j'ai dit ça au micro d'un de vos confrères, parce qu'à un moment donné, c'est tout est bio, plus bio que bio. Ouais. Il faut être green label en permanence. Alors, se faire photographier avec un agriculteur, une vache, alors on va vendre plus de produits, etc. Or que je préfère aider des fois des agriculteurs qui sont dans cette transition simplement, ou de ne pas aller acheter des pommes en Allemagne parce qu'elles sont bio, mais de commencer à travailler avec des agriculteurs qui font de la pomme à 250 km de Paris. Vous voyez, redonner du sens, pas comment je consomme bio, mais pourquoi je consomme bio, et vraiment d'aider ces filières à faire la transition.
Vous êtes végétarien, vous êtes toujours végétarien.
Toujours.
Oui. Et pourtant, vous goûtez bien ce que vous faites. Comment vous arrivez à vous à régler cette petite contradiction là?
C'est vrai. D'abord, je sais reconnaître une très très bonne viande. Je sais goûter aussi une viande. Et puis, j'ai d'excellents collaborateurs qui goûtent aussi bien que moi, voire largement mieux que moi la viande. Donc je me suis mis végétarien il y a une vingtaine d'années, et puis je trichais de temps en temps avec un flexitarisme de nécessité, et aujourd'hui depuis 10 ans en gros je suis totalement végétarien, et je trouve que voilà, je me sens mieux, je ne l'impose pas. J'ai considérablement réduit la protéine animale sur mes cartes. Aujourd'hui il y a 4 offres de protéines animales, vous voyez, pas plus, mais je fais un petit peu attention. Moi, je trouve que pour mon confort personnel, c'est bien.
C'est votre confort personnel, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec, enfin en tout cas ça va avec aujourd'hui, puisque l'air du temps nous amène effectivement à être décroissant dans notre consommation de viande, mais c'est à la base c'était pas ça l'idée de votre passage.
Non, c'est que j'avais pas forcément une intolérance à la viande, mais j'avais beaucoup de mal à en manger.
Et puisqu'on est en période de fête, vous mangez du foie gras ou pas?
Non.
Du tout?
Du tout.
Et ce qui vous gêne, c'est quoi? Est-ce que c'est le gavage, par exemple,
ou J'ai toujours eu des fournisseurs de foie gras qui avaient qui faisaient attention au bien-être animal et qui avaient des produits d'exception une fois dans l'année. Et non, j'ai jamais été gêné par cela. Par contre, j'ai été gêné par le gavage intensif. Mm-hmm. J'ai été gêné par l'élevage intensif. Et bien souvent, plutôt que d'enquiquiner un boucher de votre quartier en disant qu'il faudra arrêter qu'il fasse de la viande, il y a des gens qui font faire de la volaille par tonne, une volaille sans intérêt. Pour aller vendre des nuggets sans intérêt, là, oui, il y a une condamnation à amener.
Est-ce que vous diriez que la cuisine moléculaire qui est la vôtre est, au fond, le meilleur outil pour une cuisine végane? Il n'y a pas que du véganisme là-dedans, mais est-ce que le billet, au fond, c'est celui-là?
Vous savez, en 2004, quand on s'était penché avec l'Université d'Orsay et Raphaël Aumont sur la gastronomie moléculaire, on s'est projeté à 2050. Et on s'est dit, mais la gastronomie moléculaire n'est pas une tendance de cuisine pour être à la mode, c'est simplement un outil de compréhension. Et effectivement, avec ce cerveau collectif qu'on a conçu à Orsay avec la gastronomie moléculaire, ça nous a permis d'expérimenter un certain nombre de pistes extrêmement intéressantes, notamment de diminuer les sucres saccharoses dans l'alimentation, de voir comment on pouvait résoudre certains problèmes liés à l'alimentation, et d'avoir une cuisine qui est pour moi beaucoup plus saine.
Je cherchais le passage où vous en parlez. Vous dites étiqueté représentant de la cuisine moléculaire. J'étais, quant à moi, considéré comme le type le plus chiant du monde, capable d'expliquer qu'on pouvait réaliser une mayonnaise sans œufs, sans jaune et même sans œufs, ou un soufflé sans blanc, etc. Mais aujourd'hui, c'est ce que les véganes demandent, et c'est pourquoi je fais confiance à la science pour sa capacité à entrevoir demain. Est-ce que ça veut dire notamment que tout ce qui est souci climatique aujourd'hui, tout ce qui est souci dont on parlait à l'instant sur notre consommation de viande, etc., sur ce qu'il peut y avoir de différent à faire aujourd'hui parce qu'on se soucie de l'environnement et du réchauffement climatique, est-ce que vous avez le sentiment que la science réglera des choses,
Bien sûr, moi je discute souvent avec Gilles Boeuf, avec Raphaël Aumont, des gens comme ça, qui, quand on a projeté 2050, la première des choses qu'ils me disent, c'est mais à 2050, on a un problème, on a un stress hydrique, on manque d'eau, donc il est évident qu'il faut réduire la protéine à animal sur cette planète, donc c'est pas une vue d'esprit. Et puis quand on parle de science, c'est un grand cuisinier qui en parlait. Il s'appelait Auguste Escoffier, et Auguste Escoffier disait la cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules trop souvent empiriques à la science. Et il le disait en 1903. Vous voyez que la science fait partie intégrante des connaissances qu'on peut avoir sur certains produits et de ces transformations.
Parce qu'on vous a un peu reproché, à vous par exemple, de pas être assez Escoffier, justement, pas assez terroir, terroir, pas assez cuisine traditionnelle. Qu'est-ce qui nous embête avec cette histoire de molécules, Marx?
Mais exactement. Alors, on me reprochait de pas être assez classique, or que je pense avoir lu l'Escoffier en long, en large, en travers, et de bien connaître la vie et le travail d'Escoffier. Et puis, effectivement, c'était assez facile d'opposer des contraires en disant il est pénible avec sa gastronomie moléculaire. C'est un anti-classique. Or, les gens oublient souvent qu'un plat classique a été un plat moderne un jour.
Bonsoir Thomas.
Bonsoir madame.
On vous écoute Thomas, allez-y.
Et bonsoir Thierry Marx.
Bonsoir.
Je vous admire beaucoup, donc ça me fait très plaisir de vous avoir en relation. Donc actuellement j'étudie à Ferrandi à Paris, vous devez connaître cette école.
Très belle école, oui.
Et j'aimerais savoir un petit peu quelles sont vos aspirations pour le futur côté social et aussi côté de l'offre de la restauration. Quel serait peut-être votre rêve pour encore élargir tout ce que vous avez créé, car vous êtes un petit peu un avant-gardiste, un chef qui fait beaucoup de choses, à la fois pour les gens, pour le côté social et pour la restauration.
Mais en sortant, et merci de cette question, mais en sortant simplement de l'approche de la restauration, parce que être cuisinier, être chef d'entreprise, ça nécessite un certain nombre de choses, mais pas uniquement dans l'alimentation. Et je pense que l'avenir, pour moi, il est dans des entreprises qui auront un impact social et un impact environnemental. Donc la formation professionnelle des personnes en fragilité me paraît quelque chose d'important. Et puis d'avoir l'impact environnemental, de travailler sur ne pas gâcher cette planète, parce qu'il n'y en a qu'une, et comme dit Thomas Pesquet, et il faut mettre en avant tout ce qui peut être mis en avant pour travailler sur l'impact environnemental. Et ça, chaque cuisinier doit en prendre conscience, chaque personne travaillant dans l'alimentation doit en prendre conscience que la cuisine, ça reste plaisir, bien-être, santé, et qu'il y a tout un tas de choses à faire dans ces métiers, mais il faut les faire, à mon avis, avec un impact social et un impact environnemental. Et l'avant-garde aujourd'hui, il sera là, dans cette mesure-là, à mon avis.
Et Thomas, tiens, tant que je vous tiens, vous êtes encore là, Thomas, ou pas?
Je suis toujours là.
Tant que je vous tiens, moi, je voudrais savoir parce que vous parlez, Thierry Marx, des role models, en fait, des gens qui vous ont inspiré, qui vous ont aussi aidé, qui vous ont mis le pied à l'étrier. Moi, je voudrais savoir, Thomas, qu'est-ce qui représente pour vous un Thierry Marx? C'est quoi, en fait?
Pour moi, Thierry Marx, c'est déjà quelqu'un qui m'a fait découvrir la gastronomie, de par son livre, La stratégie de la libellule, mais aussi, par exemple, avec sa cuisine au mandarin oriental que j'ai eu la chance de découvrir. Et c'est aussi quelqu'un, par sa boulangerie aussi, et bien évidemment, mais avec son école, la cuisine mode d'emploi, je connais quelqu'un qui aimerait aller dans cette école. Et je pense que c'est vraiment pour moi quelque chose d'incroyable de permettre aux gens d'avoir une deuxième chance. Et de par la cuisine, de par ce beau métier, vraiment créer une communauté comme ça. Enfin, je pense que vraiment c'est un exemple. C'est pas l'homme à tout faire, mais c'est vraiment quelqu'un qui va aller dans tous les domaines pour faire le maximum pour les gens, mais aussi pour faire plaisir à travers la gastronomie. Et je pense que c'est une belle symbiose. Et qu'il représente le futur de la gastronomie.
Ben voilà Thomas, vous venez d'être embauché pour faire les relations publiques
oui,
de Thierry Marx.
Très gentil et c'est très agréable à entendre. Mais c'est vrai que quand on parle de seconde chance, faut pas oublier qu'il y a des gens qui auront besoin de 10 secondes chances. Et faut peut-être pas l'oublier que la mission qu'on a, c'est quand même de faire les meilleurs voisins possibles.
Allez, puisque Thomas a été très gentil avec vous, je voudrais vous soumettre le mail d'Étienne qui lui ne vous aime pas. Je suis cuisinier, je ne comprends pas que Thierry Marx soit encore médiatique. Il travaille avec l'industrie agroalimentaire et il critique le bio. Voilà l'image que Étienne a de vous.
Bah. Moi, je une réponse.
Il y en a des comme ça.
Une réponse à la Camus. La bêtise insiste toujours. Je suis le seul à pas avoir de contrat avec l'industrie agroalimentaire. Et il l'oublie. Et par contre, quand l'industrie agroalimentaire paye pour avoir des compétences, eh bien, on répond aux besoins de l'agroalimentaire parce qu'elle cherche des compétences.
Eh ben, Étienne, vous avez votre réponse. Tiens, voilà un autre qui lui est dans le Vaucluse. Ça n'a rien à voir. Est-ce que, comme Marc Vera, vous mèneriez une action en justice contre le guide Michelin si vous perdiez l'une de vos étoiles?
Eh, mais non, pas du tout. Je veux pas. Vous savez, le guide Michelin, a été un traceur et est un traceur fort dans notre métier. Et bien souvent, il nous aide à devenir ce que l'on est. Donc après, après, il faut à nous de faire notre marque, de marquer notre territoire et de garder notre identité. On ne peut pas demander à un guide d'aimer notre identité toute notre vie.
Mais vous dites, j'ai beaucoup cru dans les guides, j'y crois encore, ils posent un cadre et une attractivité forte, ça marche encore vraiment. Je parle de ça parce que si Vera a eu cette réaction-là, c'est que, pour le coup, c'est une catastrophe quand on en perd une d'étoile, en fait.
Oui, je connais Marc Vera et tout le talent qu'il a et après on pourrait discuter. Mais je pense que Les guides ont permis aussi de protéger le patrimoine culinaire français, il ne faut pas l'oublier, et que maintenant quand ils s'installent aussi à l'international, bien souvent ils protègent aussi un cadre de terroir, de territoire, pour qu'une gastronomie continue à se développer. Sinon, effectivement, il y a quelqu'un nous interpellait sur l'industrie agroalimentaire, bien il y aurait nos limites. Et il y a des pays où il n'y a pas le guide Michelin. Eh bien, on s'aperçoit que l'agroalimentaire est capable de payer énormément d'argent pour que des gens gagnent des concours et qu'avec ces concours, ils puissent se référencer et être une référence de ces industries agroalimentaires.
Mais on parlait au début de cette émission de votre, même pas volonté, votre obsession pour vous extraire de votre condition, etc. Est-ce qu'au fond, les étoiles, ça dit ça? Est-ce que vous courez après la troisième? Est-ce que ce serait l'aboutissement que vous attendez réellement? Est-ce que ça aurait cette saveur-là pour vous?
Non, mais la troisième étoile, si elle ne remet pas en question l'identité de mon travail, bien sûr que je cours toujours après. J'ai pas de, je suis rentré dans ce métier grâce à des personnages qui avaient trois étoiles, que ce soit Bernard Loiseau, que ce soit Claude Deligne, que ce soit Joël Robuchon, ils avaient trois étoiles et c'était la référence. Donc je suis de cette génération des étoiles. Donc voilà, je l'assume et je l'assumerai jusqu'au bout. Et quand on me dit est-ce que vous battez toujours pour trois étoiles, oui, jusqu'au jour de souffler la veilleuse, je me battrai pour l'excellence et l'économie de la qualité.
Et alors, Michelin va s'associer avec TripAdvisor, vous le savez, vient de s'associer. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que c'est la carpe et le lapin, selon vous? Est-ce qu'il faut garder le côté, alors je vais le dire le mot, très élitiste, en fait, de chez Michelin? Qu'est-ce que vous dites de ça?
J'ai un avis. Ouais. Une opinion.
Bah, partagez-la.
Je me la garde un peu. Mais je trouve que voilà, c'est le monde du digital. Il faut se connecter, être hyper connecté et que un maximum de gens puissent donner leur avis. Est-ce que cet avis est important ou pas? À nous de voir. Ce que je crois, c'est que ça va renforcer l'absolue nécessité que l'artisan et que l'artisan que je suis et les autres artisans renforcent aussi leur identité. Quand vous savez qui vous êtes et pourquoi vous faites les choses, vous avez moins de crainte sur la critique. Par contre, quand vous êtes balayé par tous les vents en essayant de suivre des tendances, là, effectivement, la critique peut vous épingler et vous épingler. Mais quand vous savez pourquoi vous faites les choses, c'est beaucoup plus difficile. Alors oui, TripAdvisor, c'est pas nouveau.
Est-ce que c'est pas, pardonnez-moi, disons plus compliqué quand on est un chef à deux étoiles que on regarde dans un guide, voyons s'il a eu de bonnes critiques, voyons si, je sais pas moi, mon bureau 319 @hotmail.com, donc que tous ces gens-là au fond aient un poids qui peut-être pèsera plus que les étoiles du Michelin en fait.
J'ai pas d'avis là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, c'est déjà comme ça. Et on a des personnes qui vous écrivent alors qu'elles sont appelées ou qui sont simplement venues faire un carton chez vous en vous disant on va le désinguer.
Bah aussi, ça existe, ouais.
Ça existe. Bon, mais si vous savez qui vous êtes et que vos équipes sont là en sachant pourquoi elles font les choses et pourquoi elles s'engagent dans ce sens d'une cuisine. On a la chance en France d'avoir une cuisine d'auteur. Donc, ben, préservons-la. Et cette cuisine d'auteur, si vous l'assumez parfaitement, bah qu'il y a des gens qui vous aiment pas ou qui vous désignent tous les quatre matins, si votre restaurant est plein, faut pas trop vous inquiéter non plus.
Alors après, pour revenir à des choses très très quotidiennes, il y a un sondage qui est paru dans le Parisien cette semaine que vous avez peut-être vu et qui dit que les Français mangent le plus souvent sur le pouce devant la télé. Les chiffres sont assez terribles, 43%, et je suis dedans forcément comme tout le monde, hein, 43% des Français dînent seuls chez eux, et la moitié estime qu'elle passe au moins 30 minutes à table, seulement 30 minutes. Par ailleurs, il paraît que l'ordinateur est ouvert sur la table à manger dans un foyer sur deux. Je vais le dire comme ça, c'est un peu donner de la confiture au cochon, non, quand on a
si le plat est bon. C'est des modes de consommation qui changent. Vous voyez, le déjeuner, par exemple, de l'époque de mon grand-père, ça pouvait être une heure à table avec un petit pichet de vin et tout le monde trouvait ça normal. Aujourd'hui, c'est moins de 25 minutes le déjeuner.
Ouais, c'est sur l'ordinateur beaucoup.
Et
quand même.
Voilà, donc les modes de consommation ont changé. Des fois, on s'en désole, mais il y a aussi des moments privilégiés où les gens vont faire attention à prendre un repas ou aller au restaurant, mais c'est vrai que moi le premier, il m'arrive de manger un bol de soupe en faisant quelque chose, ou alors que je devrais manger en pleine conscience, je suis bien d'accord. Ouais, bon. Mais il y a des fois, oui, je finis de taper 3 mails et en rentrant le soir, je casse un bout de fromage et voilà, quoi.
Enfin, en même temps, votre bol de soupe, à mon avis, est meilleur que le mien. Mais enfin, bon. Sébastien nous dit ceci. Ne serait-il pas important d'enseigner les bases de la cuisine aux enfants comme une matière à part entière? C'est un enjeu de santé publique, dit-il, de savoir bien manger, bien choisir ses produits. Ça permettrait peut-être d'appliquer d'autres matières de façon, d'appliquer cela à d'autres matières de façon plus ludique. Qu'en pensez-vous?
Mais il a totalement raison, je milite depuis des années et je ne suis pas le seul pour que les cours de cuisine arrivent dès les classes préparatoires, de cours préparatoires chez les enfants. Ça renforcerait le citoyen de demain qui aurait connaissance de ce qu'est un produit, de ce qu'est la planète, comment c'est cultivé et pourquoi on le mange. Et ça a redonné du sens par la cuisine. Ça, on doit se mobiliser pour ça parce que ça permet aussi d'accepter la diversité.
Bonsoir Magali.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, Magali.
Merci beaucoup. Voilà, j'avais une question pour vous, Monsieur Marx. Quelle était la place de la femme pour vous, votre point de vue? Car c'est un métier très élitiste et on connaît très peu de femmes étoilées. Et voilà, avoir votre point de vue vis-à-vis de ça.
Non, merci de cette question, mais maintenant les femmes, ça y est, ont pris la place qu'elles devaient prendre dans notre métier. Et des femmes étoilées, il y en aura de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui font et qui suivent ces formations dans le monde de la cuisine. Personnellement, moi, je peux vous indiquer que j'ai deux femmes comme chef en pâtisserie, j'ai deux femmes comme chef dans mes restaurants, donc elles ont pris leur place, elles tiennent forcément leur place, il n'y a pas de raison qu'elles ne le tiennent pas, et il y en aura de plus en plus parce qu'effectivement les cours aujourd'hui sont, je dirais, presque à la parité dans les écoles hôtelières.
Ça a bougé, voilà. Ça reste
oui, ça a complètement bougé, et puis les femmes ont vraiment pris le lead, pas le lead, mais elles ont pris la place qu'elles devaient prendre dans le monde de la gastronomie. Donc,
c'est un milieu machiste ou pas, un peu? Ça l'a été, en tout cas.
Ça a été un milieu machiste, oui, bien sûr, parce que on considérait que les femmes au fourneau c'était trop dur, trop chaud, qu'il y avait des coups de pression et qui étaient un petit peu pas très agréables, et que les femmes n'avaient pas leur place, mais elles ont pris leur place. On avait un peu vite oublié qu'il y avait eu des mères brasiers, qu'il y avait eu toutes ces femmes qui, entre les deux guerres, avaient marqué que 3 étoiles, ça leur faisait pas peur. Mmh. Et aujourd'hui, les femmes ont vraiment pris leur place. Et encore une fois, je le dis, qu'elles devaient prendre dans la gastronomie, et de façon planétaire. Donc aujourd'hui, Magali, ne vous inquiétez pas, les femmes ont leur place et elles jouent des coudes très sérieusement.
Est-ce que c'est un milieu très compétitif, toujours, entre vous par exemple? Alors vous vous connaissez, vous aimez bien ou pas? Sérieusement, est-ce que c'est très compétitif ou pas?
Alors, tout le monde s'embrasse, mon métier c'est formidable. Mais bon, il y a de la compétition, bien sûr. C'est celui qui vous dit le contraire ou celle qui vous dit le contraire. Oui, il y a forcément de la compétition un petit peu, parce que pas tant dans le style de cuisine, parce que ça, chacun a son style de cuisine. Mais après, évidemment, il y a des contrats qui se font, il y a des possibilités. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une possibilité télé, c'est formidable. Ouais. Au départ, tout le monde disait pas beau, pas bien. Et après, évidemment, il y a eu une...
Ça vous a servi ou oui, est-ce que non, ça ne fait que servir? Ça n'a pas desservi l'image à Mars, on le voit partout.
Je vais même être très franc, les 5 années passées à Top Chef m'ont permis de faire cuisine mode d'emploi. Or qu'en amont, avant de faire Top Chef, j'avais déjà une école d'insertion et on avait beaucoup de mal à boucler à boucler la boucle financière parce que j'avais pas de sponsoring. Ouais. Quand j'ai fait Top Chef, les 5 années m'ont apporté une mise en lumière qui a été décisive pour Cuisine Mode d'Emploi, bien sûr.
Maxime, tiens, reviens sur ce qu'on disait un peu à l'instant et qui parlait lorsqu'on parlait du bien-être au travail et dit la cuisine reste un des métiers stressants, effectivement, très stressant même. Est-ce que vos écoles apportent un nouveau regard sur ce point-là?
Oui, bien sûr, parce que l'encadrement, c'est très difficile comme métier parce que deux fois par jour, vous avez le temps qui se rétrécit. Il va falloir servir une bonne 50aine de personnes en moins d'une heure. Donc, il faut vraiment s'appliquer à avoir mis les bonnes mise en place pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc ça s'apprend et c'est peut-être la partie la plus compliquée de mon métier à apprendre.
Est-ce que vous leur transmettez ce que vous ramenez du Japon, ce que vous ramenez
bien évidemment,
de ce que vous avez appris du bouddhisme, etc. Enfin, vous avez ce parcours un peu particulier qui fait que...
Bien sûr. Et c'est vrai que de pas mettre de pression excessive sur les collaborateurs, mais en s'assurant que le travail soit correctement préparé, bien sûr que c'est un travail du quotidien que j'essaye de transmettre à mes collaborateurs. D'abord, on ne peut plus accepter une pression excessive sur des collaborateurs. Avant, il y avait du monde qui attendait à la porte. Mm-hmm. Maintenant, c'est plus le cas.
Et puis de toute façon, c'est pas bien.
Mais c'est pas bien
même
du tout.
S'il y avait pas, même s'il y avait personne à la porte.
Et ça n'a pas de, et ça n'a, ça n'apporte pas de résultat.
Briac nous dit, quel est l'impact des grèves selon vous sur les restaurants en ce moment, avec la difficulté que les gens ont à se déplacer? Il est fort possible qu'ils dînent beaucoup moins dehors et que les recettes baissent. Est-ce que c'est une inquiétude dans
alors
dans vos chez les restaurateurs?
Bien sûr, c'est une inquiétude économique forte. Pour certains, c'est vraiment un impact de plus de 60%. Dans les restaurants gastronomiques, on a été, ou dits gastronomiques, on a été un peu moins impactés, mais par contre, nos collaborateurs sont très impactés. Mmh. Il a fallu trouver des solutions d'hébergement, des solutions de transport, des solutions de covoiturage pour que nous puissions passer les fêtes de Noël dans de bonnes conditions.
C'est que là, on héberge le chef de cuisine plutôt que de lui demander de mettre 2 heures pour venir, parce qu'on n'est pas sûr qu'il arrivera, on ne trouvera pas son remplaçant,
non,
j'imagine.
Non, 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 mais très honnêtement, ce que je découvre aussi beaucoup avec ces jeunes gens, c'est la solidarité.
Ouais.
Et je trouve qu'on n'a rien, à leur apprendre là-dessus. Les jeunes gens qui travaillent dans nos maisons et aussi chez mes confrères, il y a une vraie solidarité. Ils sont organisés pour venir travailler. J'ai eu très, très, très peu d'absences.
Il y a Giorgio qui nous dit ceci. Il y a 4 ans, ma fille est partie avec son sac à dos en Nouvelle-Zélande et avec un diplôme de graphiste. Sur place, elle s'est mise à la cuisine. On commençait dans un petit resto. Elle est devenue head chef dans un autre restaurant à côté de la capitale, et ceci sans diplôme mais avec beaucoup d'envie. Est-ce que cette expérience serait possible en France?
Je vais vous dire, je salue sa fille parce que c'est ce qui est arrivé à un de mes enfants. Mon fils, qui était pâtissier, puis ensuite boulanger, a décidé de partir en Australie, sac à dos, et il fait le tour de la Nouvelle-Zélande, et il s'est découvert une passion pour ce pays. Et la compétence qu'il avait de son métier en France, eh bien, il a pu la transposer là-bas. Et non, non, c'est des clés sur le monde. La formation professionnelle, posséder un métier, aujourd'hui, c'est une clé sur le monde.
Mais si la fille de Giorgio tape à votre porte dans un de vos restaurants en disant « j'ai 0 diplôme, je n'ai appris que sur le tas et c'était en Nouvelle-Zélande », est-ce que vous lui dites « chiche, vas-y,
oui,
rentre ».
Non, non, on a déjà fait ça, on l'apprend, oui, bien sûr, parce que aujourd'hui, c'est la passion qui domine. Quelqu'un qui est passionné, ça va très, 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 très vite.
Christelle, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Christelle.
Bon, ça, c'était pour dire que je vous remercie d'exister.
Quand
on regarde votre parcours, ben ça donne du courage. On peut se tromper, se reconstruire, et je trouve que vous renvoyez vraiment l'ascenseur aux gens, et c'est super. Voilà.
Merci, avec merci.
Mais modestie aussi. C'est,
ce que c'est... ce que vous dites est très juste. La vie frappe fort, souvent très très fort, et on croise énormément de gens qui sont des fois touchés par la dureté de la vie, mais à chaque fois que j'ai vu quelqu'un se relever, c'est qu'il avait un projet. Et quand ça peut passer par un projet cuisine, dans cuisine mode d'emploi, ou boulangerie mode d'emploi, ou service mode d'emploi, eh bien j'en suis heureux. Et croyez-moi, à chaque fois que je vois quelqu'un qui se relève, il me dit « Ah, je suis allé au bout de ce projet, j'ai plus la même personne en face de moi. J'ai plus la même personne terrassée par la dureté de la vie. »
Si vous n'aviez pas été chef cuisinier, Thierry Marx, quel autre métier auriez-vous fait, vous demande Mélanie?
Je sais pas, à un moment donné, je serais peut-être resté militaire, ou le monde du livre m'intéresse beaucoup. J'aime vraiment l'écriture, mais j'aime aussi le livre en général. Donc une librairie à Saint-Germain-des-Prés, c'est peut-être un rêve d'enfant que j'aurais jamais.
Vous pourrez avoir une autre vie, allez savoir. Joël dit qu'on vous voit sur toutes les chaînes de télé, on vous entend à la radio, et nous on est contents. Est-ce que vous avez encore le temps de cuisiner, sérieusement?
Oui, beaucoup. Beaucoup d'ailleurs, j'ai eu beaucoup le temps de cuisiner parce que on me prépare des choses pour que je cuisine tranquillement. Alors ça, c'est très sympa parce que
on vous fait des fiches. Moi, j'en réclame beaucoup et j'en ai jamais. Je vous le dis
très souvent, mes collaborateurs me préparent un certain nombre de choses. Donc j'ai pu les épluchages à faire, tout ça. Et ça, c'était la partie contraignante de mon métier. Aujourd'hui, j'ai que le bonheur de cuisiner. C'est formidable.
Qu'est-ce que vous faites le soir du 31 du coup?
Je suis avec les équipes et je suis ce qu'on appelle au pass. Et là, je vais pouvoir vivre le moment du 31 comme chaque année avec les collaborateurs. Et je vous avoue que les moments en famille sont des moments formidables, mais les moments avec les collaborateurs, le 31, c'est quand même un vrai moment de bonheur.
Eh ben, écoutez, on vous souhaite un bon 31.
Merci.
On vous remercie en tout cas de votre présence ici au téléphone sonne. Merci à tous comme d'habitude pour vos nombreuses questions sur Inter. Il est 20h.